Voilà, nous continuons notre série sur l'exploration de la Bible dans Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Voilà, il y a une question qui m'a été posée concernant Léa et Rachel. Donc ça m'a été posé à côté tout à l'heure. C'est que c'est écrit à la fin, on en avait parlé à la fin la dernière fois. C'est écrit au verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Donc, on en avait parlé la dernière fois, on avait dit, le Seigneur est bon et il fait de l'équilibre. Donc, dans la vie des humains, Léa n'était pas aimée. Alors Dieu lui donne des enfants pour qu'elle se sente heureuse. Et Rachel, qui était aimée, Dieu ne lui donne pas d'enfants, mais comme elle était aimée, elle est aussi heureuse. Et la question m'a été posée tout à l'heure, c'est que mais ce n'est pas la faute de Jacob, c'est quand même Laban qui a fait un coup à Jacob, et Jacob se retrouve avec les deux femmes. Jacob, lui, dès l'origine, il aimait Rachel. Donc c'est normal qu'il continue à aimer ainsi Rachel. Alors que, voilà, Léa lui a été imposée, en quelque sorte. Et moi, je rajoute même, ce n'est pas non plus la faute de Rachel. Donc qu'on t'aime, où est ta faute dans ça? Qu'on t'aime. Voilà, donc c'est quelqu'un qui t'aime. Voilà, pourquoi toi tu vas subir et être stérile? Parce que quelqu'un t'aime. Et j'ai répondu de la manière suivante, comme c'est écrit dans Isaïe 55. Le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà, humainement parlant, on dira, mais oui, mais ce n'est pas la faute de Rachel, ce n'est pas non plus la faute de Jacob, c'est Laban qui a fait ce coup-là. Et Jacob se retrouve avec Léa, alors que lui n'avait pas désiré Léa. C'est normal qu'il aime Rachel, plus ainsi de suite. Voilà, la réponse, c'est celle-là. C'est que Dieu ne voit pas les choses comme nous. Dieu, il aime tout le monde et il veut que tout le monde bénéficie de sa grâce et du bonheur. Il veut que tout le monde soit heureux. Nous, on est dans la logique de soit de la méritocratie, donc il faut mériter les choses, soit de l'égoïsme. On a tendance à aimer la personne qui est la plus forte, la plus belle, la plus riche, alors que Dieu, lui, il aime tout le monde. Il aime même nos ennemis, c'est ça qui est encore plus grave. Même nos ennemis, ils les aiment. Donc nous, on va venir dans une logique, mais tiens, ben, Dieu, plutôt Jacob, aimait Rachel, c'est normal. Mais oui, mais Dieu aime aussi Léa. Dieu veut que Léa soit heureuse. Donc c'est ça qui se passe avec Dieu. Dieu veut que tout humain bénéficie de sa grâce. Donc il ne veut pas de favoritisme. Et donc c'est expliqué aussi dans 1 Corinthiens 12 concernant le corps. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit que Dieu donne de l'importance à toutes les parties du corps humain. Et il nous est dit que les parties du corps humain qui sont les moins respectables sont entourées de beaucoup plus d'honneur. Le visage, qui est la partie la plus respectable, on la couvre pas, on la protège pas, on le protège pas, alors que les parties qui sont honteuses sont protégées. Et donc, c'est comme ça que Dieu a équilibré les choses dans le corps humain, mais il a équilibré aussi les choses dans le corps social. Il a équilibré les choses d'une manière naturelle. On voit dans le corps humain le cœur qui est l'organe le plus important, ainsi que le cerveau. Ben, c'est les deux organes aussi les plus cachés. Pourtant, c'est les organes les plus importants. Et on va voir que les cheveux dont on peut se passer, ben, ils sont mis en avant. Ils sont, il y a tout un commerce autour des cheveux. Et voilà. Donc, c'est l'équilibre que Dieu a placé dans l'humanité. Donc, c'est en fonction de sa bonté, de son amour et de sa grâce. Nous sommes souvent dirigés par une logique égoïste. Nous, on veut aimer la personne qui est la plus belle, la plus forte, la plus riche, mais Dieu aime tout le monde. Voilà, c'est ainsi que Léa, Dieu voyant son malheur, a préféré lui donner des enfants afin qu'il y ait une sorte d'équilibre. Donc on voit ça aussi avec la mère de Samuel, Anne, avec sa rivale qui avait déjà 10 enfants et la mère de Samuel n'en avait aucune. Et qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le mari de la mère de Samuel, le mari de Anne lui dit? Il dit, mais Anne, mais est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? L'amour que je te porte vaut plus que 10 fils. Donc il y a un équilibre. C'est vrai que tu n'as pas d'enfant, mais moi je t'aime tellement que c'est comme si tu en avais 10. Donc le Seigneur agit dans cette logique d'équilibre, afin que personne ne se dise défavorisé, afin que personne ne se dise négligé. Donc Dieu a le regard sur tout le monde. La personne qu'on va croire qui a tout, en réalité, elle a des problèmes, voilà, que nous ne connaissons pas, et qui font que si on prenait sa place, parfois on peut avoir envie de faire marche arrière. Voilà, donc autant savoir. Une leçon à prendre aussi par rapport à cette affaire, c'est accepter les situations telles que Dieu nous les impose. Donc Dieu a imposé en quelque sorte à Jacob, Léa. Jacob n'avait pas prévu d'épouser Léa, mais ça lui est tombé dessus. Il fallait que Jacob l'accepte comme tel et l'aime aussi. Voilà. Donc parfois, il y a des choses qui s'imposent sur nous. On n'a pas choisi d'avoir un enfant qui soit têtu ou bien qui soit qui ait des problèmes à l'école ou encore qui ait des problèmes dans la société ou encore qui n'a pas la taille qu'on voudrait, qui n'a pas la peau qu'on voudrait. C'est des choses que nous ne maîtrisons pas. C'est des situations qui nous tombent dessus. Nous devons les accepter et aimer ces situations-là, parce que ça nous est tombé dessus, on n'a pas calculé. Donc aimer ça, parce que Dieu l'a permis, et à partir de là, l'action de Dieu va se manifester. Nous ne devons pas commencer à... Il ne faut pas refuser les situations qui tombent sur nous. Parce que c'est écrit dans Romains 8, 28, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand ça tombe comme ça, on dit ben, que Dieu soit béni, et on va prier pour que la gloire de Dieu se manifeste dans cette affaire. Mais on ne doit pas rejeter la chose. Oui.
Ma question est celle-là. À travers l'histoire de Jacob, donc les 4 femmes qu'il a eues, il a eu donc une descendance de Léa, de Rachel et des 2 autres, les servantes. Est-ce qu'il avait en vue déjà l'existence des 12 tribus d'Israël, donc des 12 fils de Jacob, qui donneraient naissance aux 12 tribus? Est-ce qu'on peut penser ça?
Ah non, je ne pense pas.
Ou est-ce qu'on peut penser, ben, c'est Dieu a fait en fonction de ce que les hommes on fait les arrangements où le Laban, il a fait un arrangement, etc. Et donc, il y a des conséquences. Et est-ce que Dieu a utilisé ces conséquences-là pour, amener à l'existence?
Pour accomplir son plan, lui. Oui. Dieu a considéré, a utilisé ces réalités humaines pour accomplir son plan, lui. D'ailleurs, c'est un exemple. Dieu est pour nous un exemple. C'est-à-dire, c'est des situations qu'il n'a pas désiré lui-même, mais qu'il a pu utiliser pour quand même atteindre ses objectifs. Donc c'est cela. Jacob voulait de Rachel, mais il reçoit Léa. Mais Dieu se sert de Léa pour atteindre ses objectifs. Donc nous aussi, on doit accepter, il y a des situations qui nous tombent dessus. On n'aurait pas aimé avoir de telles situations, mais Dieu peut s'en servir pour accomplir sa volonté. Maintenant, quand nous, on commence à rejeter ces situations d'une manière méchante, on prouve par là que Dieu n'est pas fort pour agir. On prouve par là qu'on veut être soi-même notre propre chef. Voilà. Donc, il faut que, voilà, un enfant qui commence à faire des problèmes à la maison, on n'a pas le travail qu'on avait désiré. La maison qu'on avait achetée ne donne pas le rendement qu'on attendait. Mais, tout ça, c'est des situations qui nous sont tombées dessus. S'il y a notre péché dedans, on se repent. Maintenant, après s'être repenti de notre péché, nous devons prier que la gloire de Dieu travaille dans la situation et transforme le mal en bien. Nous ne devons pas être sans cesse dans un état de rejet, de contestation, de colère par rapport à la situation telle qu'elle est. On doit être plutôt dans la recherche de l'usage, de la manifestation de la gloire de Dieu dans cette situation-là. Donc, être dans une logique de rejet, ça veut dire que Dieu n'est pas suffisamment puissant pour transformer cette situation en quelque chose de bénéfique. Donc, c'est ça qui est la leçon qu'on trouve ici. Et quand les hommes ne comprennent pas, comme Jacob n'avait pas compris, il a continué à aimer Rachel de loin plus que Léa. Dieu, lui, s'est imposé, il a donné des enfants à Léa pour faire cet équilibre. Voilà. Parce que si Jacob avait compris, ben Dieu allait aussi équilibrer les choses. Mais puisque Jacob continuait à aimer Rachel en négligeant Léa, alors que ce soit Léa, Léa non plus n'a pas dit qu'elle voulait s'imposer chez Jacob. C'est le papa qui a dit, ben écoute, il passe d'abord, il te prend toi d'abord. Et Léa a cédé. Ah, donc c'est une situation qui est tombée aussi sur Léa. Donc comme ça, alors Jacob devait être compréhensif pour la considérer, mais peut-être qu'il ne l'a pas considéré comme il fallait. Mais Dieu lui a donné des enfants. Dieu a joué à cet équilibre-là. Et donc, même quand des gens nous ont fait du mal, nous ne devons pas chercher à ce qu'ils souffrent ou quoi que ce soit, parce que Dieu ne cherche pas à faire du mal aux gens. Dieu veut faire du bien. Le mal que les gens subissent, c'est les conséquences de leurs propres erreurs. Ce n'est pas Dieu qui veut faire du mal aux gens. Donc les gens choisissent le mal et ils en subissent les conséquences. Maintenant, même dans Proverbe 24, qu'est-ce qui est écrit par exemple dans Proverbe 24? Verset 17, je crois. Proverbe 24, 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Voilà. Donc, quelqu'un veut te faire du mal, et Dieu le frappe, et toi tu es content. Dieu dit, ah mais non, c'est pas bon. Dieu ne veut pas qu'on soit content quand quelqu'un qui nous veut du mal subit le mal. Mais non, on peut reconnaître le jugement de Dieu. Il n'y a pas de problème, dira, ah ben Dieu a agi. Mais être dans la joie, ce n'est pas bon. On reconnaît le jugement de Dieu. Un point, c'est tout. Mais se réjouir que Dieu a frappé quelqu'un ou quelqu'un s'est frappé tout seul, ce n'est pas bon. Parce que il est écrit là, donc Dieu, ça va lui déplaire. Parce que Dieu veut qu'on lui ressemble. Il ne veut pas qu'on use de favoritisme. Parce que se réjouir du mal qui arrive à quelqu'un, c'est une forme de favoritisme. C'est-à-dire, tu aimes certains plus que la personne. Or, c'était qui? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, entre les prochains, nous ne devons pas avoir de préférence. Donc, et c'est cela. Donc maintenant, quand on se réjouit du mal qui arrive à quelqu'un, donc c'est qu'on l'aime pas vraiment. Donc c'est pas bon. Dieu ne veut pas ça. Et Dieu a vu que Jacob négligeait peut-être Léa, et Dieu lui a donné des enfants afin que il comprenne que de Léa quelque chose de bon peut sortir. Tu la négliges, mais voilà, c'est elle qui sort les enfants, c'est elle qui fait ta richesse. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que le fait donc que Jacob a été trompé par Laban soit en relation directe avec le fait que Jacob lui-même a trompé son propre père en volant la bénédiction d'Ésaü?
C'est possible. C'est possible. Ça peut avoir des relations. Parce que une relation, parce que c'est écrit dans Nombre 32, 23, ton péché te retrouvera. Donc ce que tu fais, attention, on risque de te faire la même chose. Donc c'est pourquoi il faut toujours faire du bien aux gens, afin que... on risque de nous faire que le bien. C'est qu'on récolte, on récolte ce qu'on sème. Et Jacob, il a escroqué, mais lui aussi, il s'est fait escroquer. Et donc, c'est pas une raison pour en rester là. Il faut toujours chercher à ce que la situation devienne une situation dans laquelle Dieu agit pour manifester sa gloire. Et c'est ce qu'on voit. Finalement, Dieu va se servir de Léa pour avoir les premiers enfants de Jacob. C'est ce qui fait... la construction du peuple d'Israël. Donc nous prenons maintenant le chapitre 30 à partir du verset 19. Il est écrit, Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don cette fois. Mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est bien de savoir, pour certains qui ne le savent pas, que Jacob a eu quand même aussi une fille. Parce qu'on parle de 12 fils de Jacob. Mais Jacob a eu aussi une fille qui s'appelait Dina. Voilà. Verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. » Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mets à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est acheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas acheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui y était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qui ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Voilà. Jacob demande à être libéré de la domination de Laban, mais Laban refuse. Donc c'est avec ça, c'est on avait parlé de la sagesse d'Abraham, on avait parlé du fait de comprendre les propos des gens, même s'ils disent pas tout. Donc quand Abraham demandait le champ à acheter, le champ du Hétien, le champ à Macpéla, le Hétien lui disait, mais non, tu peux prendre ça gratuitement. Et Abraham insistait pour acheter et le Hétien lui avait dit, mais un champ qui coûte tel prix, est-ce que c'est important que tu me payes ça? Abraham avait compris que c'était le prix qu'il fallait payer. Et là, Jacob demande à s'en aller. Laban dit, non, travaille encore pour moi, donne-moi ton salaire. Et Jacob insiste, Laban refuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jacob, s'il était parti, il pouvait être tué. Donc nous, on se dit, mais en fait, il ne faut pas réfléchir comme à notre époque. Voilà, c'est des gens, même si tu es le mari de ses filles, eh ben, il pouvait t'éliminer. Hein. Donc c'était, nous ne sommes pas à notre époque avec la police telle qu'elle est, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est des réalités. Jacob a compris qu'il ne pouvait pas partir. Donc il fallait que Dieu lui-même le libère. Donc il fait un contrat pour séparer quand même le troupeau, malgré le fait qu'il est avec lui, mais que Jacob ait son troupeau à lui et que Laban ait son troupeau. Donc ils ont fait un accord pour concernant la couleur des brebis et Laban a accepté. Mais Dieu, dans sa puissance, a permis que la couleur que voulait Jacob, ben, et Jacob aussi dans des stratégies. Jacob a fait des stratégies, mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui a agi pour que les brebis soient comme Jacob l'attendait et le troupeau de Jacob a grandi. Donc nous voyons maintenant la suite, verset Genèse 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oué un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Voilà, on voit bien que ce n'est pas les branches que Jacob faisait. Toutes ces techniques-là, c'était psychologique pour lui. Mais en réalité, l'ange lui a montré que c'est Dieu lui-même qui envoyait les boucs tachetés vers les brebis. Voilà, donc c'était Dieu lui-même qui multipliait le troupeau de Jacob parce que Laban l'avait escroqué. L'exemple de Jacob est un exemple très important de foi et de confiance en Dieu. Donc de foi, de confiance en Dieu. Dieu est tout puissant pour nous libérer, pour nous donner l'avantage. Nous n'avons pas besoin de nous battre par nous-mêmes. Même quand nous sommes dans le camp ennemi, Jacob était entre les mains de son beau-père. Mais Dieu lui a donné la capacité de s'en sortir. Son troupeau s'est multiplié. En quelque sorte, Dieu a pris ce qui était de Laban. Il a donné ça à Jacob. Beaucoup de chrétiens se battent pour l'argent. Ils se battent pour les héritages. Ils se battent pour obtenir des choses. Dieu est tout puissant pour prendre ce qui nous a été volé. Quand quelque chose nous a été volé, quand le Seigneur nous donne le commandement, on te prend une tunique, donne l'autre tunique. C'est parce qu'il a la capacité de nous redonner. Nous n'avons pas à nous battre pour récupérer des choses volées, qu'on nous a volées. Le Seigneur a la capacité de nous donner. Laban a pris, Jacob, il a utilisé. Mais en réalité, quand Jacob était utilisé, c'était pour lui-même. Alors dites-vous bien, quand quelqu'un vous exploite, en réalité, il est en train de bâtir votre richesse. Ne résistons pas à l'exploitation. Quand nous sommes exploités, c'est pour notre bien. Quand les apôtres ont fait face aux chrétiens qui voulaient sortir de l'esclavage par eux-mêmes, ils leur ont dit, ah non, obéissez à vos maîtres. 1 Pierre 2,18. Obéissez à vos maîtres. Même les maîtres les plus méchants. Ne quittez pas. Là où vous êtes, Dieu est en train de bâtir le royaume de Dieu avec vous. Il vous fera justice. Cette exploitation-là, c'est votre propre richesse. L'exemple de Jacob, vous savez, il y a des choses qu'on connaît d'une manière théorique. Dieu sera avec nous. Dieu est avec nous. Il nous donnera la victoire sur nos ennemis. Mais l'Ancien Testament est rempli des exemples concrets de ce que nous connaissons théoriquement dans le Nouveau Testament. Dieu, pendant que Jacob est en train de se laisser exploiter par Laban, Laban est en train de croire qu'il s'enrichit sur Jacob. En réalité, tous ces moutons-là ont fini par devenir pour la majorité, les moutons de Jacob. Donc quand Jacob est exploité, quand il bossait pour lui-même, mais il ne le savait pas encore. Jusqu'au jour où Dieu lui donne la stratégie de séparation de troupeaux, et finalement, c'est Laban qui se retrouve diminué, et Jacob enrichi, de telle sorte que le seul moyen d'en finir avec ce problème-là, c'était la séparation. Donc même Laban était conscient que vaut mieux être séparé, parce que sinon cet homme va me siphonner tout ce qui est à moi. Et Jacob aussi a bien regardé le regard de Laban. Il a vu que Laban ne le supportait plus. Il faut, bien aimé, qu'on en arrive à ce que les gens nous fuient eux-mêmes, nous chassent. Ce n'est pas à nous de fuir les gens. Quand les gens nous maltraitent, font des choses, il faut en arriver à pratiquer tellement la parole que ce soit eux-mêmes qui en aient marre de voir la gloire de Dieu en nous et qui nous fuient. Oui.
Merci. Tu disais tout à l'heure que Laban aurait pu tuer Jacob, mais je ne comprends pas parce qu'en fait, il lui dit de fixer lui-même son salaire. En fait, il lui dit...
Puissais-je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Donc.
Mais là, il lui refuse de.
En quoi il refuse, moi? Il lui dit, fixe-moi ton salaire.
Non, puisque Jacob dit qu'il veut s'en aller, lui refuse. Lui dit, fixe-moi ton salaire, donc reste ici. Tu fixes juste le salaire, mais tu restes ici.
Ah, moi, je pensais qu'il lui disait, fixe ton salaire pour partir. Enfin, qu'est-ce que je dois te donner pour le travail que tu as fait?
Ah, non.
C'est pas ça.
C'est pour dire, tu ne pars pas. Si tu es mécontent, c'est une façon de dire, je crois que tu veux partir parce que tu n'es pas bien payé. Okay. Dis-moi ce que tu veux, je vais te payer comme il faut. L'autre dit, non, moi je veux m'en aller. Ah non, dis-moi ton salaire. C'est une façon de comprendre, si tu t'en vas, je vais régler ton compte.
Ah oui. Je pensais que c'est le salaire, c'était que dois-je te donner pour...
Ah non, pas du tout.
Mais en fait, Jacob a quand même voulu user de malice pour se faire son troupeau. En fait, il a eu le songe, mais il a quand même voulu faire des choses pour provoquer. Lui-même, à la place de laisser Dieu faire.
Ah non, il a laissé Dieu faire, puisque comme il n'est pas parti, comme le monsieur ne voulait pas le laisser partir, il a dit, bon, donc tu me demandes de fixer mon salaire, voilà de telle manière je fixe mon salaire. Dans l'espoir que Dieu agisse. Mais comme nous avons vu Jacob, même autrefois, c'est quelqu'un, même quand il est dans la connaissance de la puissance de Dieu, il veut bricoler lui-même aussi.
Oui, là, c'est ce qu'il a fait aussi.
Il a bricolé avec les branches, mais nous savons bien, l'ange lui a montré que ce ne sont pas ses branches qui ont marché. Ce n'est pas sa méthode qui a marché. C'est Dieu lui-même qui a envoyé les brebis, les boucs tachetés, marqués. Donc, quand il fallait que ce soit des brebis tachetés qui soient à Jacob, Dieu a envoyé les boucs tachetés. C'est Dieu qui lui-même qui a fait ces choses-là. Ce n'est pas Jacob. Lui, il a voulu... Lui-même, maître du ciel, il n'a pas laissé Dieu faire. Mais pourtant, il avait quand même saisi que Dieu va trancher entre lui et Laban, puisque Laban ne veut pas le lâcher. Voilà. Donc, Dieu va trancher. Donc, c'est cela. Et donc, finalement, Jacob, il devient riche par la puissance de Dieu. Et cela devient embêtant pour Laban. Vraiment, que Dieu nous aide à nous laisser exploiter. Que Dieu nous aide à rester serviteurs en sachant que, en réalité, quand on est exploité, nous faisons ça pour nous-mêmes. Au début, ça ne se voit pas. Au début, nous pensons enrichir quelqu'un d'autre. Mais en réalité, nous nous enrichissons nous-mêmes. Plus tard, nous verrons cela. Plus tard, nous verrons cela. Dieu nous montrera en quoi nous nous sommes enrichis en nous laissant exploiter et en laissant sa volonté s'accomplir. Ne soyons pas des gens qui veulent à tout prix appliquer la justice humaine par leurs propres efforts. Laissons la justice divine s'accomplir. Et donc, ça passe par le fait de laisser Dieu lui-même trancher et ne pas prendre des initiatives pour toujours chercher à se défendre, faire du syndicalisme ou autre façon de réagir, de se révolter. Non, nous devons faire les choses et selon la foi en Dieu, selon la foi en Dieu, on se dit, bon, le Seigneur est capable de me donner une meilleure justice que ma propre justice. Voilà, c'est très important. Et Jacob nous donne le bon exemple dans ce sens-là. Finalement, Jacob sent que ça commence vraiment à devenir dangereux, sa présence. Là, ce n'est pas son départ qui est dangereux, mais le fait qu'il reste, c'est ça qui rend maintenant sa situation difficile. Il a des enfants, il a ses femmes, il préfère fuir. Voilà. Et Dieu lui dit aussi de partir. Il obéit à la voix de Dieu qui lui demande de partir et il part. Verset 14. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? On voit que tout ce qu'on fait nous retrouvera un jour. Quand Jacob, quand Laban faisait ces choses pour avoir Jacob, pour profiter de Jacob, c'est lui qui était content. Ah, j'ai quelqu'un qui bosse pour moi, j'ai un beau frère qui bosse pour moi, qui fait le travail. Donc, mais les filles ont gardé tout ça. Elles se sont dit, ben voilà, il est en train de nous vendre. Il est en train de nous vendre, donc le monsieur doit travailler 7 ans. Et aujourd'hui, ce commerce-là, c'est trop fort en Afrique, où on vend les femmes. Tu veux épouser une femme, on te demande de l'argent comme si tu dois acheter un humain. Et ce qui est malheureux, c'est que certains chrétiens sont dans ça aussi. Ils vont exiger des dots astronomiques. Des dots astronomiques. Et c'est ainsi que beaucoup, dans certains pays, restent dans le concubinage. Parce qu'ils savent que si on doit épouser la femme, on va lui fixer une dot astronomique. Alors, ils préfèrent rester dans le concubinage, dans le péché. Et c'est Satan qui gagne. Nous devons vraiment lutter contre tout ça. En commençant par ses propres femmes-là, dire à leurs parents, attention, je ne suis pas une marchandise. Donc quand tu vois qu'on veut te vendre, tu t'insurges pour dire, non, je ne suis pas une marchandise à vendre. Vous n'avez pas à fixer des montants comme si vous vendez du bétail. C'est une affaire symbolique à faire, reconnaître que vous êtes mes parents, mais de là à fixer des montants comme si c'était une marchandise qu'on vendait, non. Et c'est ce qui se passe. Et ces femmes-là doivent dire, non, je ne veux pas que vous m'utilisiez comme cela. C'est très important. Nous, les chrétiens, nous devons nous lever contre ça parce que c'est quelque chose qui entraîne le concubinage et finalement le péché. Nous devons résister et dire non. Être courageux pour dire à la belle famille, là, vous exagérez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de courage. Ah, mais si je dis ça, je vais perdre la femme. Mais non. Donc, il faut dire la vérité. Là, vous exagérez. Tu fais vraiment une lettre. Chers beaux parents, je vous respecte beaucoup, mais le prix que vous avez fixé, regardez mon salaire, c'est ça. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une sorte de vente? Ah oui. Donc quand ils vont prendre, ils vont dire, mais les petits se moquent de nous, mais ils vont réfléchir, ils vont dire, mais non, là, ils vont faire une réunion familiale pour essayer de diminuer. Donc le prix. Donc il faut que on résiste. Moi, je suis prêt à aider les gens à écrire de telles lettres. Parce qu'on doit lutter contre ça. C'est de l'escroquerie, c'est du vol. Et tôt ou tard, ça va agir contre les gens qui font ça. Et voilà, Laban vient de subir ça. Ses propres filles vont dire, mais non, mais il nous a vendus. Donc nous t'appartenons. Voilà. On ne va pas regarder à notre père. Verset 16. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Ils l'ont dit clairement. Voilà. Donc, maintenant, lui, il nous a vendus, mais nous, on récupère maintenant. Nous sommes ses filles, nous sommes ses héritières. Après tout, nous sommes ses héritières. Donc, ceux qui te reprochent comme quoi tu as pris ses biens, mais ces biens-là sont à nous puisque nous sommes ses héritières. Donc, nous sommes avec toi. Donc, il n'y a pas de mal. Fais tout ce que Dieu te dira. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram, et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous le bât du chameau. Et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les téraphimes. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime, quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison ?» Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fouillait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants. Ce troupeau est mon troupeau et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Il prit des pierres et firent un monceau. Et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jegar Sahaduta et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé contre moi, entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin, que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau, que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nakhor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Entre nous, Jacob jura par celui qui craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Voilà, l'histoire commence à se clôturer avec Laban.
Oui, moi, je voulais dire que j'ai l'impression que quand même, parfois, Jacob, bon, il entend Dieu, le fait grâce, il voit, il a des visions, des songes, Dieu lui parle, il reconnaît, mais après, c'est comme s'il veut quand même essayer de faire les choses par lui-même, il lutte, quoi. Il lutte, et après, il se rend compte quand même que oui, Dieu lui a parlé, mais c'est comme si, en fait, il a peut-être du mal à vraiment...
Tout lâcher, quoi.
Oui. Parce que là, dans cette fuite-là, alors que Dieu lui avait quand même parlé avant, mais il préfère quand même fuir devant Laban, alors que le Seigneur lui avait déjà dit clairement, retourne chez ta famille là-bas et tout ça. Mais c'est comme si, au lieu qu'il affronte quand même Laban, il fuit. Et puis, enfin...
Oui, d'ailleurs la Bible dit qu'il a trompé Laban. Donc c'est la phrase qui est donnée. Il trompe Laban. Donc c'est négatif pour Dieu. Donc Jacob aurait dû dire, Dieu m'a dit de partir. Et je pars. Mais voilà.
Et c'est vrai que dans tout ça quand même, malgré tout, Dieu lui dit qu'il est avec lui. Dieu lui montre qu'il est avec lui. Mais c'est comme si, à un moment, il...
C'est... Mais parce qu'il a foi en Dieu. Nous revenons toujours au fait que...
Il a foi, mais c'est comme si dans ses agissements, bah, parfois il veut quand même un peu...
Et bricoler.
Voilà quoi.
Mais ça ne change pas le fait qu'il a foi.
Ça ne change pas, mais c'est vrai que quand je fais un petit parallèle aussi avec nous, je me rends compte que nous aussi parfois, on est comme ça. Dieu nous parle, on a les promesses. Et tout ça, mais c'est comme si parfois...
On veut toujours bricoler. Voilà, on doute un peu. Et ça retarde l'action de Dieu.
Jusqu'à ce que, quand il l'a compris, et ben après, les choses vraiment ont changé quoi, pour lui.
Parce que s'il avait, pour une fois pour toutes, affronté en disant « je m'en vais », et part, hein, là, Laban n'aurait même pas bougé le pied. C'est-à-dire que Dieu aurait bloqué Laban tout de suite. Quand il aurait dit, mais je vais le poursuivre, Dieu allait le bloquer tout de suite. Mais puisque lui n'a pas dit, finalement, qu'est-ce qu'il fallait maintenant? Mais est-ce qu'ils sont où? Parce que c'est des gens qui étaient nombreux. Hein. Donc quand Jacob fuit comme ça, il n'est pas seul. Il y a du nombre. Et quand les autres le poursuivent, il y a du nombre. Donc ils sont plus ou moins courants qu'ils courent après nous. Ils sont courants. Parce que quand vous partez comme ça avec les familles, vous ne partez pas, vous ne faites pas que marcher. À un moment, vous vous arrêtez. En s'arrêtant, il y a des gens qui peuvent aller observer qu'est-ce qui se passe dans les alentours. Donc, ils étaient plus ou moins au courant qu'ils étaient poursuivis. Ça, c'est quelle vie? Ce n'est pas une belle vie. Donc, c'est ce qui se passe pour le chrétien qui a foi en Dieu, mais qui bricole encore tout seul. C'est une vie qui n'est pas agréable. Une vie, il y a la peur, il y a l'hésitation, il y a le doute, Il faut une fois pour toutes, tout laisser. Mais le chrétien qui ne laisse pas tout, mais qui garde une certaine foi, Dieu continue à l'utiliser, mais il n'est pas à l'aise. Parce qu'il ne lâche pas. Il n'est pas à l'aise. Il fait du bricolage. Il fait traîner certaines choses. Parce que là, cette alliance avec Laban, ça pouvait se faire dès le départ. Il dit, je m'en vais. Dieu m'a dit de partir. Mais ça a traîné. Et finalement, ça a créé une sorte de désordre, à tel point que dans ce désordre-là, Rachel aussi prend les faux dieux. Donc tout ça, c'est parce qu'il fuyait. Donc dans la tromperie, tout le monde aussi trompe. Toi, tu trompes, ta femme trompe aussi, prend les faux dieux. Donc ça fait désordre aussi. Il était parti officiellement, je ne pense pas que sa femme aurait besoin de prendre ces faux dieux-là. Peut-être que, voilà, elle aussi, dans la peur, elle a pris ça comme protection. Donc il y a, comme la sœur a dit, il faut... Une fois pour toutes, tout lâcher. Donc, faut pas se dire, Dieu agit quand même, je veux continuer à bricoler. Non. Le bricolage ne fait que nous créer de l'instabilité, de la difficulté, alors qu'on peut s'en passer. Oui, oui.
Alors, il me vient dans la pensée, Jacob, il a fait la même chose avec son frère. Il a grugé pour avoir, pour récupérer le droit d'aînesse de son frère. Et il en a eu les conséquences. Là, on voit encore une fois qu'il il joue en fait pour arriver à s'en sortir, voilà, il bricole. Alors est-ce que justement, est-ce que c'était quelque chose que Jacob vivait, c'est quelque chose qui faisait partie de sa nature charnelle, certainement la crainte, la difficulté d'affronter peut-être les personnes ou de prendre position. Est-ce que le fait que par la suite, quand il va se battre avec l'ange de l'Éternel et qu'il va vaincre, quand il va devoir affronter son frère, est-ce que justement c'est pas à ce moment-là qu'il va être vraiment délivré?
C'est ce que je pense. Donc c'est ce qu'on allait aborder. Donc Genèse 32, je pense que dans la lutte avec Dieu, c'est là que sa chair a été brisée. Parce que là, Jacob a la foi, mais sa chair est encore active. Donc ça peut arriver que quelqu'un ait la foi, mais qu'il refuse de faire mourir la chair. C'est pourquoi les apôtres nous exhortent à faire mourir notre chair. Ça peut agir les deux en même temps. Tu as la foi, mais ta chair fonctionne aussi. Et ça crée des problèmes et des difficultés. Alors que s'il y a la foi et que la chair est morte, la foi agit pleinement et la gloire de Dieu se manifeste. Oui.
Oui, pasteur, je reviens à Laban. Je me dis peut-être aussi qu'il a fui la peur parce que il avait peur aussi à ce qu'il paye encore à nouveau le prix.
Oui, il avait peur, mais Dieu lui avait dit de partir. Il devait croire que Dieu allait le protéger et être honnête. Parce que là, ça a servi à quoi puisque Laban l'a rattrapé? Ça n'a servi à rien. Puisque Laban a fini par le rattraper. Donc il fallait une fois pour toutes régler ça quand tu étais sur place. Voilà. Donc ça nous montre que le bricolage ne fait que faire traîner les échéances. Autant être droit et agir dans la vérité dès le départ. Tant qu'on bricole, on cherche à faire par nous-mêmes, ça ne fait que faire traîner ce qu'on fuit. Et c'est ce que Jacob vit à chaque fois. Ça ne fait que faire traîner les problèmes. Les problèmes viendront toujours nous rattraper. Autant régler avec Dieu dans la vérité, dans la droiture. Ça peut être dur au début, mais directement on est sauvé, alors que faire traîner par la tromperie, le bricolage, l'action par la chair, ça ne fait que traîner, faire traîner le problème. Mais Dieu honore quand même la foi. Jacob avait foi en lui. Le Seigneur continuait à le protéger et agir jusqu'au bout. Et finalement, Laban a expérimenté ça aussi. Dieu lui dit, ne touche pas à Jacob. Et Laban est obligé de s'humilier et de laisser la vie sauve à Jacob. Non seulement ça, comme Dieu s'est manifesté à lui, il a dit, vaut mieux faire alliance avec Jacob. Ça nous rappelle un passage de Proverbe. Donc aujourd'hui, on a cité, ça c'est la deuxième fois qu'on cite Proverbe. Je crois que c'est Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Soyons aussi dans cette attente. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À cause des faux prédicateurs de malédiction, les chrétiens d'aujourd'hui attendent seulement que Dieu frappe leurs ennemis. Non, nous devons attendre que la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement la protection que Dieu nous donne en frappant nos ennemis. Ça peut être la gloire de Dieu, mais la grande gloire, c'est faire que nos ennemis nous servent. Ça, c'est plus que le fait de les frapper. Mais faire qu'ils nous servent, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est fort. C'est-à-dire qu'il les prend. Eux qui devaient nous combattre, finalement, ils nous servent. On a des grands exemples dans la Bible. Hein? Moïse. Le pharaon, normalement, qui devait tuer Moïse, il élève Moïse lui-même. Oui.
Oui, j'allais dire, est-ce que c'est ce que dit, la Bible dans Apocalypse, que les gens de la synagogue de Satan viendront se prosterner.
Et reconnaître que, voilà, Voilà. Je t'ai aimé dans Apocalypse 3. Voilà. C'est ça. Nous, en tant que chrétiens, nous devons chercher à ce que Dieu change les cœurs de nos ennemis. Les amener à nous être favorables. Je ne dis pas que ça finira toujours comme ça. Mais ça doit être notre attente. Nous ne devons pas être dans une attente de ah, Dieu va les frapper. Non, mais non. C'est pas bon. Le Seigneur nous dit de bénir et non pas de maudire. Le Seigneur demande d'aimer nos ennemis. Maintenant, si le Seigneur doit les frapper, ça c'est lui-même. Nous, on doit être dans cette attente de voir un Laban qui venait me tuer. Finalement, il me fait du bien. Un Saül qui cherchait à tuer David. Finalement, il dit à David, tu seras roi. Dieu te bénira. Voilà. Dieu te bénira. Ça, quand tu vis des choses comme ça, tu peux dire, j'ai vécu, j'ai expérimenté la gloire de Dieu à son maximum. Mais vivre juste ce que les enfants d'Israël ont vécu, les Égyptiens qui les poursuivaient, bon, ils sont noyés dans l'eau, ils sont morts. C'est aussi la gloire de Dieu, mais dimension inférieure. La dimension supérieure, c'est que la personne même qui est censée te faire du mal, finalement, elle te fait du bien. Moïse, qui devait être tué par Pharaon, et élevé par Pharaon, ça montre la puissance de Dieu. Donc tu vis chez ton ennemi. Donc la personne qui a fait toute une loi pour que toi tu meurs, mais tu vis chez elle maintenant. Tu vis chez elle. Mais vous vous imaginez les gens que beaucoup ont loupés. Il y a des gens qui ont été élevés par des parents mauvais, magiciens, sorciers. Mais un jour, tu sors de là, tu commences à servir Jésus. Il t'a loupé. Et normalement, lui, il devait te tuer s'il savait ce que tu allais être. Mais Dieu, dans sa puissance, s'est servi de lui pour te nourrir, te donner les vêtements, l'instruction, parce que Dieu avait sa main sur toi. Ça, c'est la gloire de Dieu. Donc, quand tu sors de ça, tu dis, mais la personne même qui devait me tuer, c'est elle qui m'a élevé. Parce que c'est une personne méchante, avec de mauvaises intentions, mais j'ai été nourri par la personne. J'ai grandi. Et quand tu rencontres une telle personne, tu la bénis. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, tu rencontres d'autres personnes, c'est des méchants, tu ne veux même pas dire bonjour, tu ne veux même pas aider, parce que tu as compris qui était vraiment cette personne. Non, mais si Dieu l'a utilisé pour t'élever, pour te donner la nourriture, tu dois bénir cette personne, même si elle est mauvaise. Parce que nous sommes appelés à cela. C'est ça notre notre nature en Dieu. Oui.
Oui. Comment expliquer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui utilisent les psaumes. C'est souvent dans les psaumes que on parle de que ton épée transperce mes ennemis, tout ça, des choses comme ça. Plusieurs fois, je sais pas c'est qui a dit ça, David, je sais pas c'est les autres, où ils ont voulu que Dieu puisse faire du mal à leurs ennemis. Est-ce que c'est parce que c'est Dieu lui-même qui avait mis ça à leur cœur ou comme c'était l'ancienne alliance, maintenant nous on doit.
Ah mais là on est en train de lire l'ancienne alliance là. Là où on voit que l'ennemi est transformé en bienfaiteur. Le pharaon, c'est l'ancienne alliance. Hein. Non.
Parce que j'ai beaucoup d'assemblées, même le monsieur qui avait écrit sur son DVD, parce que les gens copiaient. Voilà, il frappe mes ennemis, fait ça.
Il avait... Mais il est dans le mensonge. Est-ce que celui qui copie le DVD est un ennemi? C'est ça déjà, lui-même il est dans le mensonge. Au contraire, celui qui copie le DVD, il est un ami, parce qu'il multiplie la parole de Dieu. Donc les gens qui se font pirater, ils disent, c'est nos ennemis. Comment ça, c'est ton ennemi? La personne qui pirate le CD est en train de multiplier la parole de Dieu. Ce n'est pas ton ennemi. Déjà là, il y a une première erreur. Donc, deuxième erreur, c'est que on ne doit pas mélanger les choses. Dieu a des moments aussi où il a frappé. Comme il a frappé les Égyptiens, ils sont morts dans l'eau. Maintenant, si il a utilisé David pour prononcer des paroles de malédiction, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il attend de nous tous. Quand Dieu a tué Ananias et Saphira, ça c'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancienne Alliance. Il a dit, vous allez mourir. Mais qui a dit ça? C'est Pierre. Mais est-ce que ça veut dire que nous, on doit dire la même chose que Pierre? Non. C'est Pierre a reçu cette révélation-là pour dire ça. Mais la base, ce que Dieu attend de nous, c'est de bénir. Maintenant, si tu utilises comme prophète pour maudire, ça c'est Dieu qui t'utilise. Nous, on ne peut pas savoir. C'est ça.
Oui, tu as répondu en partie, pasteur. Donc, la question c'était, en termes pratiques, comment un chrétien doit utiliser ces passages des psaumes, notamment sur la prière contre les ennemis, ainsi de suite, ou quel enseignement il doit prendre de cela?
Pour moi, le seul enseignement, c'est 1 Jean 3:8. Le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Donc, le chrétien peut utiliser ces versets de guerre pour dire, Seigneur, que les œuvres des ténèbres soient détruites. Mais on ne peut pas envoyer le feu chez un humain, qu'il brûle. Non, on ne peut pas. On ne peut que détruire les œuvres des ténèbres. On ne peut pas faire du mal aux hommes. Parce que Dieu veut sauver les hommes. Donc on peut prier avec force. Seigneur, détruis les œuvres de mes ennemis. Confonds-les. Détruis les œuvres du diable. Mais on ne peut pas dire, Seigneur, brûle tel sorcier. Non, non. Ça, ce n'est pas biblique. Le Seigneur nous demande de bénir, d'aimer et non pas de maudire. Maintenant, si Dieu utilise un serviteur parce que c'est Dieu qui l'utilise, là, nous, on ne peut pas savoir. Ça, Paul a bien livré, Hyménée et l'autre à Satan. Voilà, parce que Dieu l'a utilisé comme ça. Mais c'est le même Paul qui nous parle dans 1 Corinthiens 13 de l'amour. Donc, il nous parle de l'attitude que Dieu attend de nous. Mais si Dieu t'utilise pour prononcer un jugement, ça, c'est Dieu qui... Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, nous ne devons pas imiter ce qui a peut-être été un usage ponctuel d'un serviteur de Dieu. Nous continuons, Genèse 32, là où Jacob devient Israël. Oui.
Je voulais dire à la fin, on remarque que Laban aussi avait, disons, peur de Jacob, parce que du fait qu'il ait dit que ce monceau, en fait, fallait pas que l'un des deux parte au-delà du monceau, en allant, disons, de l'autre côté, quand Laban dit... Il ne faudrait pas que Jacob parte au-delà du monceau vers lui et lui aussi n'allait pas partir vers. Donc ça montrait qu'en fait, peut-être qu'il savait que la famille de Jacob allait s'agrandir et Jacob allait devenir un jour très puissant et il pourrait revenir peut-être.
Ou même là même. Hein. Donc ça dit qu'il lui tourne le dos, Jacob revient. Donc on ne sait pas. Hein. Mais toujours, ta remarque est bonne, c'est que la peur change de camp. Maintenant, c'est les autres qui ont peur. Normalement, c'est ce qui doit nous arriver. Au début, c'est nous qui avons peur un peu. On prie, on pratique la parole, on cherche la face de Dieu, on meurt à soi-même, on laisse Dieu agir, on prie, on lit la parole, et puis à un certain moment, c'est la peur qui va changer dans l'autre. De quand? Parce que les autres vont voir que Dieu est avec nous. Et c'est eux qui vont maintenant commencer à avoir peur. Et on ne comprend pas comment, nous tellement on se sent petit, mais c'est Dieu qui leur a dit attention, je suis avec la personne. Donc à un moment donné, la peur change de camp. Ça doit être l'attente du chrétien, que ça arrive à un moment donné. Vous savez, le monsieur, le centenier qui était au pied de la croix, quand il a entendu le tremblement de terre, le ciel s'est obscurci. Il s'est dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Donc la peur a changé de camp. Il a réalisé que là, il y a des choses qui se passent dans l'univers. Cet homme est réellement le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le serviteur de Dieu a persévéré. Quand nous persévérons, la peur finit par changer de camp. Et c'est ce qui se passait là. Il était venu en conquérant, mais il repart en quelqu'un qui signala, s'il te plaît, qui est la paix entre toi et moi. On a vu ça à plusieurs reprises avec Isaac. Pareil, hein? Isaac, finalement, les gens qui voulaient lui faire du mal, ils sont venus dire, on signe l'alliance avec toi. que toi tu ne nous fasses pas du mal, nous aussi on ne va pas te faire du mal. La peur finit par changer de camp. C'est l'Apocalypse 3, dont le passage dont Nancy a parlé. Donc finalement, les gens viendront, les gens de la synagogue du diable viendront se prosterner et reconnaître que j'étais aimé. Donc c'est, les choses vont changer de sens. Ceux qui disaient que tu es dans le faux, qu'ils sont forts, ben, finiront par reconnaître que Dieu est avec toi. Donc c'est pourquoi nous devons... Mais tout ça passe par la persévérance. En persévérant avec Dieu, les choses changent de direction. Oui, verset, on attaque chapitre 32. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Mahanaïm, qui veut dire deux armées ou deux camps. L'un visible, donc c'est Jacob, et l'autre invisible. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Seir, dans le territoire des Dom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, le bœuf et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elle allaitait, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il le remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier, « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient le troupeau. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob, viens aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement? Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Voilà un épisode crucial de la Bible. Déjà, rien que le fait que le nom d'Israël vient de cet épisode, c'est déjà très très important. Aujourd'hui, Israël est dans toutes les bouches, dans le monde entier, parce qu'il y a eu Genèse 32. Jacob, dans sa peur, il fait passer sa famille le torrent par le gué de Jabbok et il reste seul. C'est là qu'il se bat contre un homme. Au début, on dit un homme, à la fin, on dit Dieu. Voilà. Donc, il se bat sérieusement. Et c'est vraiment extraordinaire ce combat, parce qu'à la fin, Jacob ne perd pas le combat. Mais premier élément, c'est quoi? C'est qu'il est dit que Jacob est resté seul. Donc la vie avec le Seigneur, à un moment donné, c'est une vie seule avec lui. On ne peut pas la vivre tout le temps ensemble. À un moment donné, on reste seul avec Dieu, on médite avec lui, on décide avec lui, on discute avec lui, on lutte avec lui. Ça finira toujours seul. À un moment donné, on a vu ça avec Jésus, les apôtres l'ont laissé, il est resté seul. Surtout dans les moments des épreuves, ça, on finit toujours seul. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de chrétiens se fâchent d'être seuls. Ah, personne ne m'a appelé. Personne, mais justement, donc à un moment donné, tu dois être seul pour expérimenter la gloire de Dieu, pour changer d'étape. Il faut être seul, c'est comme ça. Donc quand les gens n'étaient plus à tes côtés, c'est voulu même parfois de Dieu. Parfois c'est des gens qui t'aiment beaucoup, mais Dieu a mis comme un voile d'oubli en eux, comme si tu n'existais plus. C'est juste que tu dois être seul pour subir cette opération, ce changement. Et beaucoup font des procès à plein de gens, mais ils ne m'ont pas appelé, ils ne se sont pas occupés de moi. J'ai fait 10 jours à l'hôpital, même pas un frère. Mais Dieu voulait que tu sois seul. Donc Jacob, Dieu, nous montre qu'il est... C'est bien écrit, hein? Et il resta seul. C'est toujours comme ça. Jésus est resté seul. Jésus n'a jamais, vous allez lire les évangiles, il n'a jamais reproché aux disciples de rester seul. Parce qu'il savait qu'il devait rester seul devant cette épreuve. C'est comme ça. Devant les grandes épreuves, on doit être seul afin que le travail de Dieu se fasse. Et même si on refuse d'être seul, on sera quand même seul parce que personne ne peut entrer dans notre cœur. Même si on se fait entourer, le travail que Dieu fait en toi, ça sera un travail solitaire. Tu seras le seul à sentir ça, à vivre tout ça comme il faut. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et il est resté seul à se battre avec Dieu. Tu vas te battre avec Dieu seul. Tu vas chercher même parfois à accuser Dieu auprès des autres. Mais les autres diront, non, c'est pas notre problème. Lutte avec Dieu. Ah bah. Comment ça se passe? Les gens prendront toujours la part de Dieu. C'est une façon de te dire, lutte avec Dieu tout seul. Ne cherche pas à nous mêler. Parce que souvent les gens, quand ils luttent avec Dieu, ils veulent condamner Dieu, ils appellent d'autres chrétiens pour que les autres chrétiens prennent leur part. C'est vrai que quand même là, nous ne comprenons pas. Pourtant, tu pries, tu es correct, mais les gens ne disent pas, mais Dieu, mais ils condamnent Dieu ensemble avec toi, d'une manière indirecte. Mais les vrais chrétiens ne condamneront jamais Dieu. Ils te diront, Dieu a toujours raison. Tu as beau dire, mais oui, mais comment mon doigt est coupé? Le vrai chrétien te dira, je ne sais pas comment, mais Dieu a raison. C'est tout. Donc finalement, tu finiras seul à lutter avec Dieu pour savoir qu'est-ce que je fais. Tu seras seul. Ce sont des décisions que l'on prend seul. Parce que si on prend ça avec l'appui des gens, ce n'est pas une vraie décision. Donc dans ces épreuves-là, dans ces difficultés, il y a des décisions à prendre et tu dois prendre ça seul. Et le Seigneur va te mettre dans un contexte où tu vas te retrouver seul. Il faut prendre la décision. Il faut se laisser travailler par Dieu. Il faut changer d'étape. Et là, tu es prêt à prendre tous les risques. Tu es prêt à mourir. Tu es seul, tu sais que c'est fini. C'est comme une sorte de mort. C'est fini, je prends les risques que je prends, et c'est comme si tu étais seul dans le monde, quoi. Voilà. Quand Jésus prend la décision d'aller à la croix, c'est comme s'il est seul dans le monde, parce qu'il a quand même une mère. Quand tu as une mère, quand tu penses à tout ça, tu as des frères et sœurs, tu dis, mais non, tu vas faire marche arrière. Mais à un moment, Dieu permet que tu sois seul. Il était à Gethsémané. Même les disciples ne sont pas venus le soutenir. Il est resté seul. Voilà, il est resté seul. Ce que Jésus-Christ leur a reproché, c'est la prière. Pourquoi vous n'avez pas prié? Mais rester seul, il est resté seul. Il a crié à Dieu. Et on voit que ça se répète ici avec Jacob. Il est resté seul. Et Jacob, ce qui est encore honorable avec Jacob, c'est que Jacob n'a pas voulu mêler sa famille. Lui, il a dit, je reste seul dans cette affaire. Je ne mêle personne. Je reste seul. C'est mon affaire. Et il y a une chose aussi très importante que ce texte nous livre. Il faut réparer avec les gens qu'on a blessés. Il faut réparer avec les gens à qui on a fait du mal. Quand tu fais ça, tu changes d'étape. Voilà. Il faut savoir demander pardon. Cette affaire est arrivée quand Jacob a pris la décision d'arranger avec Ésaü. C'est là que Dieu permet cette lutte seule et ce changement d'étape. Tant qu'il n'avait pas fait ça, le changement d'étape ne venait pas. C'est quand il décide d'arranger avec Ésaü, de demander pardon. C'est là que Dieu le fait changer d'étape. Nous devons être prêts à réparer les fautes qu'on a commises. C'est comme ça qu'on peut changer d'étape. Et tant qu'on ne fait pas ça, on tournera en rond. Et Jacob a compris ça. Il a réglé. Vous vous souvenez de Moïse quand il allait libérer les enfants d'Israël? Dieu a voulu le tuer parce que ses enfants n'étaient pas circoncis. Quand il a réglé cette affaire-là, il a pu aller libérer le peuple d'Israël. Et donc là, c'est pareil, Jacob devait régler avec Ésaü. Il l'avait trompé. Il ne faut pas croire parce qu'on a fait ça. C'était quand même la volonté de Dieu, c'est bon. Non, on doit réparer. Il a réparé et Dieu le fait changer d'étape. Donc, et le combat va durer longtemps. Et ce combat symbolise quoi? Ce combat symbolise la lutte de la chair face à Dieu, la chair de l'homme. L'homme, dans son moi, dans son indépendance, il lutte avec Dieu pour lâcher prise et laisser à Dieu le contrôle. Il lutte. Et Jacob, parce que la chair te dit quoi? La chair te dit, sois indépendant. Vis ta vie. Mais l'esprit te dit, non, 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 non. Sois avec Dieu. Maintenant, au lieu que Dieu lui-même t'aide, non, Dieu met des circonstances pour te pousser à le rejeter lui encore. C'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il veut voir si tu tiens vraiment à lui. Au lieu que lui, il réponde à ton cri, il ne répond même pas. Il veut voir. Est-ce que tu tiens vraiment à lui? Il permet même des circonstances qui doivent te décider à le rejeter. Il veut faire la différence entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. C'est ce combat-là que Jacob a mené. Dieu voulait le fatiguer, amener Jacob à dire, je veux me débrouiller par moi-même. Mais Jacob a dit, je ne te lâcherai point. Je suis accroché à toi. Quoi que tu me fasses, je ne te lâcherai point. On lui a même donné un coup à l'emboîture de la hanche. Jacob a dit, je m'accroche. Si tu ne me bénis pas, je ne bouge pas. C'est ça les vrais serviteurs. Quoi que Dieu les lâche, quoi que Dieu les abandonne, exprès pour voir leur cœur, ils ne bougent pas. Ils disent, moi je reste avec Dieu. Job, Dieu lui a tout pris. Dieu a dit à Satan, fais tout ce que tu veux. Jusqu'à lui donner la maladie, les maladies, il a pris les enfants, ils sont morts. Le troupeau, c'est parti. Les maisons, parti. Son corps, parti. Il était devenu un cadavre vivant, Job. Mais il a dit, je ne lâcherai pas Dieu. C'est ainsi qu'il est passé à une autre étape. Alors, beaucoup de chrétiens retardent l'étape de Jacob. Quand ça arrive, de telles épreuves arrivent, ils se battent par la chair et ils décident de ne pas utiliser Dieu. Finalement, cette étape va revenir encore. Parce que Dieu ne peut pas fonctionner avec toi tant que tu n'es pas passé par cette épreuve de Jacob. Et il va te faire passer ça. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas plus que Jacob, tu n'es pas plus que Daniel, tu n'es pas plus que Moïse. Tous ces gens-là sont passés par cette épreuve-là. Où Dieu a fait comme s'il les abandonnait. Voilà. Pour voir quelle position ils vont prendre. Mais Jacob a dit, moi je serai avec toi, je vais me battre jusqu'au bout. C'est pourquoi Dieu a dit, tu t'es battu avec Dieu et tu as été vainqueur. Avec Dieu et avec les hommes, donc tu n'as pas lâché. Tu as été vainqueur. C'est très bien. Désormais ton nom c'est Israël. Dieu te change de nom, ça veut dire il te met maintenant dans sa mission. Il te met maintenant dans ton appel. Parce que tu as passé l'épreuve, ce que j'appelle l'épreuve des ténèbres. Où les ténèbres sont devenues épaisses sur toi, mais tu n'as pas lâché Dieu. Tu as dit non, on peut tout me prendre, mais je garde Dieu. C'est ça qui a fait que Jacob a changé d'étape. Il a changé d'étape parce qu'il est resté seul face à Dieu. Dieu a tout fait pour le décourager. Il a dit non. Un jour, Dieu a dit à Moïse, Moïse, pas de problème, je te donne la terre promise, mais moi je ne suis plus avec toi. Moïse a dit, pas question. Si tu n'es plus avec moi, je ne veux même pas la terre promise, c'est avec toi que je reste. Un jour Dieu a dit à Moïse, bon, on se calme. Je tue tous les enfants d'Israël, comme ils sont mauvais, et je fais une nouvelle race avec toi. Moïse a dit à Dieu, tu m'avais donné la mission de sauver les enfants d'Israël. Et maintenant, tu me dis d'être d'accord avec le fait que tu les tues. Ah non. Si c'est comme ça, élimine-moi aussi. Voilà les vrais serviteurs. Donc, pour la mission de Dieu, c'est ce que Paul dit dans Actes des Apôtres 20-24. Je ne fais plus aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse la mission de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, la mission de Dieu est pour lui plus importante que sa propre vie. La mission, c'est libérer les enfants d'Israël. Maintenant qu'ils sont libérés, Dieu dit à Moïse, je vais les tuer. Ah, Moïse dit, ah non, dans ce cas-là, tu me tues aussi. Dieu dit à Moïse, non, non, toi, je t'aime beaucoup. Je veux faire de toi une nouvelle famille, une nouvelle race. Moïse a dit, non, moi, tu m'avais donné la mission de sauver ce peuple-là. Maintenant, tu me demandes de les voir tués par toi. Ah non, je refuse. Ça, quand Dieu voit de telles choses, c'est pourquoi il y a des gens qui ont voulu se rebeller contre Moïse. Ah, Dieu a ouvert seulement la terre. Tu vas discuter avec quelqu'un comme ça, quelqu'un qui est prêt. Pour vous, il était prêt à ce qu'on le tue lui-même. Et toi, tu après, tu vas venir dire, ah, Moïse, tu es n'importe qui. Ah, là, c'est Dieu lui-même qui descend, il ouvre la terre. Ces gens-là ont été engloutis. Oui.
Oui, j'allais demander, je pense qu'on avait parlé de ça une fois, je ne sais pas si je me trompe, où quand je vois que la mission qu'il a donnée à une personne elle devient lourde, elle peut donner à une autre personne. Un exemple, j'ai parlé une fois avec une sœur qui disait qu'elle sentait dans son cœur qu'elle devait prier pour une certaine personne, mais elle avait l'impression que au fur et à mesure qu'elle priait, on dirait que la personne s'enfonçait de plus en plus dans son péché. Et elle disait que non, moi je pense que voilà, c'est bon quoi, parce que là, elle n'en pouvait plus, quoi. Elle était fatiguée parce que pour elle, elle trouvait que c'était... Est-ce que quand on en arrive à ce niveau-là, est-ce que Dieu peut comprendre et donner la mission à une autre personne?
Est-ce que Dieu peut comprendre? Dieu ne peut pas comprendre qu'on arrête sa mission. Hein. Il ne peut pas comprendre, mais il accepte. Voilà, il accepte. Si quelqu'un refuse, il trouve un autre serviteur.
C'est pas refusé. Par exemple, le cas de Moïse, je sais pas si c'était Moïse, on avait parlé, j'avais vu qu'il était arrivé à...
Oui, mais c'est pas Moïse qui a demandé qu'on lui enlève la mission. C'est Dieu qui a vu qu'il tenait plus, il n'allait pas tenir. Mais en plus, ce n'est pas que Moïse n'allait pas pouvoir amener le peuple d'Israël. On avait dit que Moïse risquait de tomber après avoir été à Canaan parce que l'erreur qu'il venait de commettre présageait que il risquait, parce que là, c'était encore rien. C'était dans les difficultés. Il sort l'eau du rocher par le fait de, en frappant avec le bâton, alors qu'on lui a dit de parler. Et ensuite, il avait dit la phrase, moi et Aaron, est-ce qu'on va vous sortir? Nous n'allons pas vous sortir de l'eau de ce rocher. Donc, il avait pris la gloire de Dieu. Alors, on avait dit, une telle attitude dans la difficulté, quand sera-t-il lorsqu'il les amènerait à la terre promise? Là, on va faire de lui un dieu. Et Dieu a préféré que Moïse perde sur terre, mais qu'il reste avec lui. Voilà. Parce que c'était déjà mal parti. La chair de Moïse, on sait ce qu'on avait dit, ne supportait plus la gloire. Il était tellement glorieux que sa chair ne supportait plus ça. Sa chair commençait à faire des gaffes. Donc c'est cela. Et là, Dieu va préférer te prendre toi. Plutôt que, on voit des gens comme Watchman Nee qui fait 20 ans de prison et qui meurt en prison. C'est tout ça. Hein. Donc, quand tu deviens très glorieux, Dieu te préserve. Parce que Watchman Nee, il était en prison, mais partout on prêchait ses enseignements par d'autres personnes. On les écrivait à gauche, à droite. Donc, ben, si quelqu'un comme ça était vivant maintenant, ça allait être, il était en dehors, il était à l'extérieur. Dieu a préféré qu'il reste en prison. Parce que comme ça, il garde son serviteur. Voilà. Même s'il perd sur terre, mais il le garde. Alors que si Nitushenk, il était dehors, sûrement il allait tomber. Parce que il devenait très gros, glorieux. Voilà, très, très glorieux. Donc sa chair, peut-être, n'allait plus supporter ça. Donc c'est cela. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit du fait de rester ferme avec Dieu. C'est ce que, en fait, le verset du Nouveau Testament qui va avec ce qu'on est en train de lire, c'est que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Donc les gens qui disent non, je n'arrêterai pas. Ils usent de violence. Quoi qu'il arrive, moi je m'attache à mon Dieu. Voilà. Ça, ce sont ces violents-là à qui appartiennent le royaume de Dieu. Des gens qui disent bon, même si les ténèbres m'environnent, je m'accroche au Seigneur. C'est le Seigneur qui va conduire ma vie. Jacob avait une lutte à faire avec sa chair. Donc Dieu maintenant a voulu le pousser à aller jusqu'au bout. On a dit que Jacob ne faisait que du bricolage. Il connaissait la volonté de Dieu, il faisait du bricolage. Dieu dit d'accord, maintenant je veux même plus me manifester en ta faveur. Je vais te combattre, te me battre contre toi, comme ça, pour te pousser vraiment à aller dans ta volonté, dans ta chair. Jacob lui dit non, c'était des erreurs. Moi, ce que je veux, c'est ta volonté. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est te suivre. Ce que j'ai fait comme bêtise, c'était des erreurs. Donc, nous pensons que à partir de là, Jacob s'est maintenant installé dans la dépendance totale à Dieu, à partir de cette épreuve-là, où Dieu maintenant lui donnait la latitude, la liberté pour agir par la chair. Dieu te dit, même moi je suis contre toi. Ah, maintenant, vas-y, agis par la chair. Jacob dit, non, non, non. Maintenant que tu me donnes la liberté d'agir par la chair, je refuse ça. C'est toi que moi je veux. Je veux que tu conduises ma vie. Je veux que tu me bénisses. Je veux que tu sois avec moi. Dieu dit, tu as compris mon fils. Désormais, ton nom, c'est Israël, parce que tu as tenu à rester avec Dieu, quoi qu'il en soit. Voilà, que Dieu nous aide à passer cette épreuve avec succès comme Jacob, quitte à sortir avec en boitant, mais dans la gloire et la victoire du Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prier que tu nous aides à accepter, que tu conduises notre vie à 100%, même si cela suppose une mort personnelle, cela suppose un brisement personnel qui va laisser des traces dans nos vies, d'une manière physique parfois. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, aide-nous à nous battre pour accepter ton plein contrôle sur nos vies. Parce que notre chair refuse ça. Et il y a un combat. Et dans ce combat, Seigneur, aide-nous à tenir ferme dans notre choix de te laisser gérer. Au nom de Jésus, nous nous attendons à toi, Seigneur.